Comme l'annonce le titre de la conférence, je vais donc vous parler d'un abbé, surtout d'un abbé de Saint-Ouen du début du XIVe siècle, qui s'appelle Jean-Marc d'Argent, ou du moins c'est sous ce nom-là qu'il est le plus connu, également appelé Jean Roussel, comme vient de le dire Elisabeth Laloux. Cette conférence s'inscrira donc, pour ceux qui l'ont peut-être déjà entendu, dans le prolongement de celle de Véronique Gazot, qui avait été consacrée à l'abbé Nicolas de Saint-Ouen, donc celui qui a fait l'abbatiale romane et maintenant celui qui a fait l'abbatiale gothique en quelque sorte, pour lui répondre. Cependant, pour comprendre l'action de Jean-Marc d'Argent et les conditions dans lesquelles il a pu lancer ce chantier, faire ressortir également son rôle particulier, j'évoquerai d'autres supérieurs du monastère des XIIIe, XIVe siècles, qui correspondent donc, comme vous l'avez compris, à la période dont je suis plutôt spécialiste. Donc je précise d'emblée que je ne suis pas en revanche spécialiste historien de l'art ou de l'architecture, et que ce ne sont donc pas ces questions que j'évoquerai ici avec vous ce soir. Je vais plutôt vous parler du pouvoir abbatial, de l'économie du monastère au XIIIe, XIVe siècle, et en gros de ce qui a permis l'émergence de la belle abbatiale qu'on voit encore aujourd'hui. Je pense qu'il est peu utile de présenter ici l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen, mais quand même, donc c'est une des plus anciennes abbayes du diocèse de Rouen, et bon, je vais vous montrer un chiffre ou deux pour comparer, alors j'espère que c'est assez grand. Ouais. Donc, je suis trop loin. Alors, c'est mieux comme ça ? Donc sur le graphique qui est près de vous, vous voyez l'effectif des abbayes du diocèse de Rouen au milieu du XIIIe siècle. Alors vous voyez qu'un trait bleu domine l'ensemble, c'est le bec et loin que vous connaissez certainement. Et en dessous, vous avez un trait plus rouge qui correspond à Saint-Ouen de Rouen, donc qui est dans le top quand même. Donc Saint-Ouen est avec Jumièges et Saint-Vendry. Toutes les trois font partie, je dirais, du deuxième groupe au niveau d'importance dans les abbayes du diocèse. Elles conservent toutes entre 40 et 50 moines au XIIIe, XIVe siècle, voire plus. Saint-Ouen en abrite 62 en 1338. Toutes ces abbayes possèdent également des prieurés relativement nombreux. On en a 11 à Saint-Ouen, 10 à Jumièges, 8 à Saint-Vendry, par exemple. En 1255, les prieurés de Saint-Ouen habitent 35 moines. Entre la fondation de l'abbaye et le temps de Jean-Marc d'Argent, 23 abbés donc, se sont succédés à la tête du monastère que vous avez là. Dans le cadre de ma thèse, donc soutenue en 2018, j'ai étudié ceux qui ont été amenés à dominer ce monastère après le rattachement de la Normandie au domaine royal capétien, donc après 1204. Donc les quelques éléments que je vais vous présenter ici découlent directement de ces recherches. Donc parmi ces abbés, Jean-Marc d'Argent, donc Jean III, est une figure qui a particulièrement retenu l'attention. Quelques éléments rapides sur sa carrière avant l'abbatiat. Donc il est moine de Saint-Ouen, on ne sait pas très bien quelle année il y arrive. Puis il devient prieur de Beaumont-en-Auge, qui est le plus gros prieuré de l'abbaye au milieu du XIIIe siècle et qui abrite 15 moines environ. À cet égard, sa carrière est tout à fait classique. Dans les abbayes normandes du XIIIe, XIVe siècle, on élit souvent un ancien officier, un ancien prieur d'abbaye, un ancien prieur claustral à l'abbatiat. Il a ainsi eu l'occasion de se former, de se faire connaître et de faire ses preuves, surtout aux yeux des moines qui ont le pouvoir de l'élire. Quant aux origines familiales de Jean-Marc d'Argent, elles ne sont pas connues avec certitude. Les sources du Moyen-Âge l'appellent tant Marc d'Argent que Roussel, rendant difficile l'assimilation à une de ses familles, et il faut notamment être prudent avant de le lier à la famille de bourgeois marchands du XIIIe siècle, qui s'appelle les Mars d'Argent, connus à Rouen. Il n'y a pas aucune certitude sur son lien avec cette famille. Ce surnom, qui a suscité nombre de fantasmes sur lesquels je vais parvenir, a notamment fait parler Jean-François Pommeret, donc le célèbre historien rouennais du XVIIe siècle, qui a écrit que son surnom lui viendrait de sa découverte de la pierre philosophale et du fait qu'on l'aurait retrouvé des alambics, des fourneaux, etc. dans l'abbaye de Saint-Ouen, et avec ses outils, il aurait fabriqué de l'or, ce qui lui aurait permis d'avoir tous ses fonds pour construire cette belle abbatiale. Je ne vais pas vous mentir, tout cela relève de la légende. Et il faut certainement trouver d'autres causes à ce surnom de Marc d'Argent. Cependant, c'est bien cette question qui me servira de point de départ ici, car ça ne va pas de soi, au début du XIVe siècle, de se lancer dans un chantier de cette ampleur, et surtout, ça ne va pas de soi, vu les finances de l'abbaye à cette époque. Vous avez tous en tête, ou presque, j'imagine, l'impressionnant bâtiment qui s'élève encore devant nous et dont les dimensions viennent concurrencer la cathédrale, qui est plus près de nous encore. Et cette construction a évidemment demandé des fonds importants. Si on se place dans la longue durée, c'est-à-dire 13e, 14e siècle, ça étonne quand même l'historien qu'un abbé ait été en mesure de construire cette abbaye. Le début du XIVe siècle est marqué par un contexte économique difficile dans le nord du Royaume de France. On redécouvre les disettes, voire les famines, qui étaient rares au XIIIe siècle, et Rouen n'est pas épargné. Je vais juste vous montrer un petit témoignage de cela. Guillaume Forestier, donc, qui est un moine de Sainte-Catherine de Rouen, l'autre abbaye bénédictine de la ville, nous a laissé un poème plutôt éloquent intitulé « Des carreaux temporés », autrement dit « De la cherté des temps ». En l'an 1000 et 304, ne faisois pas moult bon et se battre, agent qui n'avoie denier. Ker les blés estoient si chiers, que la mine de bon fourment valoit 4 livres d'argent. La mine de Mestel, 60, et la mine de pois, 60. Les fèves trop bien se vendoient, autant comme les pois valois. Orga valoit 46, et la veine estoit à chel prix. La vêche estoit moult cher tenue, comme bon blé estoit vendu. 3 oies valoit 2 tournois. Et un hareng en valoit 3. Une langue de bœuf valoit 12 deniers et un pied de soie. 2 bœufs de porc, il manque un morceau dans le manuscrit. 20 échetois chiers à grand merveille. Quand 20 franchois ou de Cormeille valoit 2 sols en Ichelan, tant le vendoit à Rouen. En France et partout vexin. Vendoit-on le galon de vin, 3 sols de Parisis aux mains, pourtant qu'il fût bon et sain. Il convenoit pour un cheval ferré donné au maréchal 5 sols de tournois tous entiers. Pour chacun pied, 15 deniers, qui use une robe à faire, pour mouiller là et pour retraire, pour coustre là et pour tailler, payer 10 sols au couturier. Tous estoient en si grande cherté, que qui en dira vérité, on lui dira qu'il en mentit. Vous voyez donc dans ce poème, quand même, qui la situation inquiète tellement un moine qu'il finit par rédiger un texte sur la situation économique, tout coûte cher à partir de ce moment-là, au début du XIVe siècle. Il en sera évidemment la même chose de tout ce qui sera nécessaire à établir une abbatiale, à commencer par le bois, bien sûr, et la pierre. Alors, il est parfois difficile de connaître la situation financière d'une abbaye médiévale. Pour Saint-Ouen, on a la chance néanmoins de disposer de quelques éléments à partir du milieu du XIIIe siècle. Repartons donc de là, si vous le voulez bien, pour voir dans quelle situation Jean-Marc d'Argent a trouvé l'abbaye en arrivant. Alors, on peut partir du registre des visites paroissiales d'Eudrigo, donc le fameux archevêque de Rouen du milieu du XIIIe siècle, qui, comme tout archevêque, visitait les abbayes de sa province et a eu la bonne idée de noter dans un petit manuscrit à chaque fois ce qu'il y trouvait et des informations sur les abbayes. Ce manuscrit est parvenu jusqu'à nous et dans les informations qu'il note, on a notamment les dettes. Et vous voyez tout de suite, alors même si c'est flou et que c'est un peu illisible pour certains d'entre vous, la courbe la plus haute, celle qui domine totalement, c'est Saint-Ouen. Saint-Ouen est de très 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 loin l'abbaye la plus endettée du diocèse de Rouen, voire de toute la Normandie, au XIIIe siècle. En comparaison, bien sûr, des autres abbayes. En dessous, vous avez d'autres très grandes abbayes, hein, type Jumièges, Saint-Vendry, Sainte-Catherine, Le Bec, etc., qui arrivent à rester sous les 1000 livres de dette, alors que Saint-Ouen plafonne à 7000 livres de dette à certains moments. Alors, on peut essayer de chercher des explications à cette situation financière catastrophique. La première, ce sont 2 éléments ponctuels qui pourraient expliquer cela. Un incendie important en 1248 touche l'abbatiale, qui a dû occasionner des dépenses, évidemment, et des investissements importants pour remettre tout cela en ordre. Peu probable que ça suscite autant de dettes, cependant, j'y reviendrai. Autre phénomène ponctuel, l'abbé de Saint-Ouen, au milieu du XIIIe siècle, a obtenu du pape le droit de porter la mitre, c'est-à-dire ce couvre-chef épiscopal, qui lui donne un prestige beaucoup plus grand, notamment dans les sorties publiques. Et ça coûte très cher de convaincre un pape de vous donner ce genre de privilège, et le financement de cette procédure a certainement dû occasionner des coûts, sans compter le coût des procès que va faire l'archevêque à l'abbé après pour tenter de lui ôter ce droit. Cependant, si je regarde les dettes de Saint-Vendry et du Bec, qui vécurent des événements similaires à la même époque, aucune n'explose. Et notamment le Bec, qui a connu 3 incendies au XIIIe siècle, et c'était autrement plus grand de reconstruire le Bec que Saint-Ouen à cette époque-là. Il faut donc chercher d'autres explications pour le cas de Saint-Ouen. Si on regarde la courbe dans le détail, les dettes explosent particulièrement entre 1251 et 1255, passant d'un montant tout à fait absorbable, dirais-je, 1208 livres, à 7240 livres. Pour vous donner un ordre de grandeur, à la même époque, les revenus annuels de Saint-Michel-du-Tréport, une abbaye moyenne de Normandie située au Tréport, s'élèvent à 1100 livres, c'est-à-dire que la dette de Saint-Ouen représente plus de 6 fois les revenus annuels d'une autre abbaye. Or, les années 1251-1255 correspondent aux premières années d'un abbé à Saint-Ouen, qui est Nicolas II de Beauvais. Or, tant la chronique de l'abbaye, sur laquelle je reviendrai, que Drigo, note les piètres qualités de celui-ci en matière de gestion du temporel. Quelques exemples. La chronique donc dit de lui qu'il fut moult religieux homme et curieux de garder religion et de faire la garder, mais curoi peu de la temporalité, en choix la laissoit toute à ses officiaux. Le 5 décembre, l'archevêque de Rouen, donc Drigo, reproche à Nicolas II sa piètre gestion de l'abbaye encore. Il note que sa connaissance du temporel est insuffisante. Il revient le 13 décembre 1258, fait la même remarque, le 30 mars 1260 encore, le 28 mai 1261, le 11 août 1264, le 13 août 1265. Vous voyez que ça a peu de conséquences finalement, tous ces reproches de l'archevêque, puisqu'il est toujours en poste pendant tout ce temps. En 1260, il note même avoir appris que Nicolas II était alcoolique, frivole et faisait des promesses à la légère. En revanche, il note bien que l'état spirituel de l'abbaye est très bon, comme quoi tout n'est pas totalement perdu. Il ne faut pas négliger que la vision d'Eudrigo est certainement biaisée par le conflit violent qu'il oppose à l'abbé au sujet de ce droit de porter la mitre dont je vous parlais tout à l'heure. Il semble que, cependant, que Nicolas II fut un bien piètre gestionnaire. Or, il faut bien avoir à l'esprit qu'au XIIIe siècle, c'est le fondement de la mission de l'abbé, c'est un des deux fondements de la mission de l'abbé dans son abbaye, c'est d'assurer la santé financière de celle-ci. Il est de son devoir de connaître les sources de revenus, de les optimiser et de contrôler ses dépenses. La vertu de prudence, de prudentia qui doit aussi l'animer, doit le conduire à ne pas endetter son monastère. Or, la concentration des pouvoirs financiers et administratifs entre les mains de l'abbé lui donne une marge de manœuvre immense dans son monastère. C'est cette situation structurelle qui explique en grande partie plusieurs phénomènes. Ce qui a parfois été décrit comme une obsession d'Eudrigo pour la gestion des temporels est le signe d'un véritable problème qui peut se poser. Que faire si un abbé, qui avait entre les mains tous les moyens financiers de l'abbaye, n'avait cure de la santé économique de son monastère? Comme bien d'autres hommes de son temps, l'archevêque avait bien conscience des avantages à développer des moyens, si ce n'est de limiter, du moins de contrôler le pouvoir des abbés. Du côté de la papauté, la première réponse fut ce qu'on appelle les chapitres généraux de bénédictins. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer du modèle de l'ordre de Cîteaux, qu'on va organiser des réunions des abbés bénédictins en faisant des sortes de contrôles par les pairs. Donc cela se généralise au XIIIe siècle, après des expériences en Italie. Tous les ans, donc, dans chaque royaume ou province, se tient un chapitre général des abbés bénédictins et ce chapitre est associé à ce qu'on appelle des visiteurs qui se rendent dans chaque abbaye de la province ou du royaume afin de corriger, de réformer ce qui doit l'être. Si ces visiteurs jugent l'abbé incapable, dangereux, ils doivent le dénoncer à l'évêque du diocèse afin qu'il le dépose. Et si l'évêque rechigne, on peut monter jusqu'au pape. Ces chapitres, cependant, ne remettent pas en cause l'autonomie des monastères bénédictins et avaient deux faiblesses, leur cadre territorial très vague et les limites du pouvoir des présidents pour contraindre les récalcitrants. La vraie instance de contrôle, dans un premier temps, reste donc l'évêque. À chacune de ses visites, Eudrigo tente d'imposer aux abbés de tenir leurs comptes avec la plus grande rigueur possible et de les présenter plusieurs fois par an à leurs moines, ainsi qu'il l'était demandé dans les statuts dits de Grégoire IX. Mais encore une fois, tant les visiteurs du chapitre général que les évêques ne peuvent avoir une vision d'ensemble de l'état financier d'un monastère si l'abbé rechigne à les réaliser, puisque c'est lui le vecteur. La structure des revenus des monastères était en effet tellement fragmentée, ne serait-ce que si on tient compte des prieurés et des manoirs, que donner une vision d'ensemble était quasiment impossible si la gestion n'était pas tenue avec rigueur et de façon continue, donc à la demande de l'abbé. La solution donc mise en avant, qui était déjà prévue par la règle de Saint-Benoît, qui avait vu juste, était d'associer au moins en partie les moines à la gestion. Certains, élus par la communauté, devaient se voir présenter les comptes par le supérieur. Cette mesure est certainement celle qui a été la plus efficace, au Moyen-Âge tout du moins. Ça se passe à Saint-Ouen pour le cas de Nicolas II de Beauvais. Le 9 août 1266, des moines viennent trouver l'archevêque et se plaignent de leur abbé. Ils disent qu'il fait du tort à l'abbaye, ils ajoutent qu'il la quitte plus souvent que nécessaire avec une escorte trop importante, qu'il mange et boit trop, qu'il a fait profiter sa sœur et ses neveux des biens de l'abbaye outre mesure. Autrement dit, il a une pratique totalement aristocratique. Hein. Il chevauche, il a une escorte, il garde des liens avec sa famille laïque. Autrement dit, c'est un mauvais moine. Face à cette mauvaise situation, Eudrigo décide de le convoquer dans une réunion avec 10 moines de l'abbaye. On ne sait pas, mais c'est très probablement les plus âgés ou tout du moins les plus réputés, afin de trouver des solutions pour faire face à la négligence de l'abbé. Malheureusement, les sources ne disent pas très clairement ce qui se passe après ça. Toujours est-il que Nicolas II finit par démissionner et finit dans un prieuré de Saint-Ouen. On ne sait pas très bien à quelle date, c'est 1267 ou 1271. Pour différentes raisons, mon cœur penche plutôt pour 1267, mais les certitudes sont minces, et bon, si ça intéresse certains d'entre vous, on pourra en reparler peut-être plus tard. Toujours est-il que cette démission est présentée comme ayant cherché à lui sauver la face, et c'est clairement un résultat de la pression des moines. Il valait mieux qu'il démissionne plutôt que de passer au niveau supérieur et donc être déposé par l'archevêque de Rouen. Toujours est-il que vers 1270, vous le voyez, l'abbaye semble dans une bien mauvaise posture financière. Comment en vient-on donc à notre grande abbatiale ? Oui, j'avais remis la liste là. Alors, pour comprendre l'action des successeurs de Nicolas II jusqu'à Jean-Marc d'Argent, donc vous avez donc Nicolas II, qui est là, Nicolas III de Goderville, Jean Ier de Fontaine, Jean II d'Auteuil et finalement Jean-Marc d'Argent. Un texte médiéval est très précieux pour connaître ceci, c'est ce qu'on appelle la chronique des abbés de Saint-Ouen. Alors, le texte dit chronique des abbés de Saint-Ouen est contenu dans un manuscrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France, composé au XIVe siècle. Dans ce manuscrit, on trouve trois textes narratifs. Une copie de la chronique de Guillaume de Nangis, qui est une histoire du monde depuis sa création, une version de la chronique de Normandie, et enfin, cette chronique des abbés de Saint-Ouen. Léopold de Lille a montré que ce manuscrit appartenait aux moines de Saint-Ouen, où il a été fabriqué. Le texte de la chronique, certains d'entre vous le connaissent peut-être, puisqu'il a été publié en 1840 par l'érudit Francisque Michel. Cette édition, cependant, comprend plusieurs erreurs de transcription, parfois dommageables, et n'est accompagné d'aucun appareil critique. Beaucoup de mots sont confondus. Par exemple, lorsque la chronique décrit la tenue dans laquelle Jean-Marc d'Argent est enterré après sa mort, Francisque Michel nous dit qu'il était vêtu d'autres habits pontificaux comme de mitres sans cindales, alors que le texte du manuscrit indique qu'il était vêtu comme de mitres, gants et sandales. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose. D'un côté, il a des sandales, de l'autre non. Et symboliquement, ça a une grande importance. Cette chronique donc, en ancien français couvre l'histoire de l'abbaye de ses débuts jusqu'aux années 1350. Toutes les périodes ne sont cependant pas également traitées et la chronique se fait plus précise à partir précisément de l'abbatiat de Jean-Marc d'Argent. L'auteur en particulier reconnaît une grande lacune. Après avoir évoqué la mort de Nicolas Ier en 1092, je vais vous remettre les abbés, il écrit « Et de nul des abbés d'après lit. Comment qu'il en ait tout plein écrit en la calande de la dite abbaye de Saint-Ouen, nous ne savons ni Noaïm ont que dire, à nul qu'il sut ou nul en gît, jusque à l'abbé U de Contemoulin, donc Hugues de Courmoulin, de Contremoulin, aussi appelé de Courmoulin que vous avez là, qui était abbé de 1234 à 1251. Cela signifie qu'au XIVe siècle, plus d'un siècle de l'histoire de Saint-Ouen était tombé dans l'oubli. C'est tout de même très étonnant pour un monastère de cette taille, mais toujours est-il qu'au XIVe siècle, un moine finit par reprendre la plume et réécrit l'histoire de l'abbaye et parvient à obtenir des informations sur les supérieurs de la seconde moitié du XIIIe siècle. Sa connaissance est parfois approximative. Il ignore par exemple quand Hugues est mort. L'auteur indique ainsi ses sources. Ce que nous avons dit de l'abbé U, nous le savons par ceux qui en avoient vu partie, et l'autre l'y avoit oui dire à ceux qui l'avoient vu. De l'abbé Nicole qui va devant, nous n'en savons rien, ni d'œil ni de vue, fort pour la renommée qui est telle, qu'il est ainsi écrit S chronique et en autre lieu en la dite abbaye de Saint-Ouen. Ce passage pose quand même quelques problèmes. Comment expliquer que notre auteur ait trouvé des témoignages de l'abbatiat d'Hugues, qui est avant, mais pas de l'abbatiat de Nicolas II de Beauvais, qui est postérieur. Et de même, la renommée de Nicolas II de Beauvais, vous commencez à la connaître un petit peu, est largement négative. Il n'est pas réputé pour être un bon abbé, c'est le mauvais gestionnaire alcoolique de tout à l'heure. Enfin, la mention de chronique sous-entend que d'autres textes étaient alors composés à Saint-Ouen, et si c'était vraiment le cas, pourquoi notre auteur n'y a-t-il pas accès à la mort d'Hugues de Contremoulin ? Il est très difficile de comprendre ces références. De ce passage, on peut également former l'hypothèse que le chroniqueur écrit après l'abbatiat de Nicolas de Beauvais, qu'il ne semble pas avoir connu. Donc une première phase d'écriture de la chronique commence à la fin du XIIIe siècle. Sachant que la chronique semble inachevée et qu'elle s'arrête vers 1356, il faut penser que deux chroniqueurs au moins se sont succédés. Et le changement doit se placer sous l'abbatiat de Jean-Marc d'Argent. À partir du récit de cet abbatiat, en effet, le chroniqueur change de ton. Il est particulièrement intéressé cette fois par les affaires comptables et n'hésite pas à dresser de véritables comptabilités, listes d'achats ou de biens, dans un texte qui jusque-là n'en avait pas du tout, ce qui montre un intérêt différent de la part de celui-ci. Et puis la description des funérailles de Jean-Marc d'Argent qu'il donne et de l'élection de son successeur Renaud II du Quesnay est d'une précision telle qu'il est impossible que l'auteur n'ait pas assisté à ces événements. Au total donc, pour synthétiser, un auteur a commencé à la fin du XIIIe siècle, un autre écrit sous Jean-Marc d'Argent. La forte attention de notre chroniqueur du XIVe siècle aux affaires financières s'explique certainement par la situation de l'abbaye dont je parlais tout à l'heure. Redresser la barre a pris plusieurs décennies aux abbés, et c'est par ailleurs un cas assez classique. Quand un ou plusieurs abbés décident de remettre de l'ordre dans les affaires d'une abbaye, ils lancent en général aussi l'écriture d'une histoire de celle-ci, dont la production fait partie intégrante de la remise en ordre. C'est-à-dire vous remettez en ordre les finances, les bâtiments et l'histoire. Vous écrivez un nouveau texte qui va raconter l'histoire selon la façon dont vous voulez le faire, et c'est en général ça qui parvient jusqu'à nous. Venons-en donc au cœur du problème, comment nos abbés ont-ils remonté la pente ? Le premier point a été de diminuer les dettes, et en particulier l'usure. Selon la chronique, Nicolas III de Godarville, donc le successeur de Nicolas II, osta toute l'usure de son abbaye et en diminua les dettes. Ses successeurs ont poursuivi ce travail d'épuration, si bien que quand Jean-Marc d'Argent devient abbé en 1303, estoit dû à la dite abbaye trop plus qu'elle ne devoit. C'est-à-dire que l'abbaye a davantage de personnes endettées à son égard qu'elle-même a de dettes. Ce qui en soi ne veut rien dire sur le montant des dettes de l'abbaye, j'y reviendrai. Deuxième technique, beaucoup plus performante, c'est l'optimisation de la gestion des domaines et plus généralement la mise en place de stratégies économiques. Cela passe par le développement au XIIIe siècle de l'achat de rentes en argent ou en nature par les abbés normands. Ce dispositif leur permet de s'assurer un revenu régulier et connu d'avance. Jean Ier des Fontaines, qui est un des premiers à redresser le monastère, abbé de Saint-Ouen, a acquis un grand nombre de terres. Par exemple, à Quincampoix, donc près de Rouen, où, nous dit le chroniqueur de l'abbaye, l'acre doit plus de 2 soldes de rente. Et on a des stratégies comme ça qui se mettent en place, où un abbé cible une paroisse et va acheter les terres de la paroisse en série pour concentrer un domaine à un endroit déterminé. Jean III, Marc d'Argent, achète lui-même des nouvelles terres dans cette paroisse et poursuit ainsi l'œuvre de Jean Ier des Fontaines et fait faire des travaux dans le manoir qui était situé. Donc le manoir est à la tête de l'exploitation agricole. C'est dans ce domaine que Jean-Marc d'Argent, le voici, est particulièrement actif. Il a acquis 820 livres de rente situés dans près de 30 paroisses différentes pendant son abbatiat. C'est beaucoup. Ça représente des sommes importantes. Ces achats coûtent pas moins de 10 700 livres. En d'autres termes, ce n'est qu'après 13 ans de perception des rentes qu'il a rachetées que ça devient rentable, son histoire. Autrement dit, on est face à un abbé qui investit sur le long terme pour rétablir une santé financière à son abbaye la plus stable possible. L'avantage des rentes, c'est que c'est prévisible comme revenu, ce qui est quand même pas mal. L'investissement est donc considérable, ça représente un an de revenu à ce moment-là. En 1338, l'abbé dit percevoir 11 647 livres de recettes par an, et il a investi 10 700 livres. Donc, c'est un chiffre tout à fait comparable. Donc ça suppose aussi un endettement. 2 469 des 10 700 livres investis, disons 2 500 et 10 000, donc un quart des livres investis par Jean-Marc d'argent correspondent à de l'argent qu'il a emprunté pour acheter. Cela signifie tout de même que notre abbaye a pu investir 8 000 livres sur ses fonds propres. Une année où le monastère n'a dégagé que 1 500 livres de bénéfices. Je suis désolé, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est le cœur du problème là. Ce compte donc en question intégrait des dépenses extraordinaires liées à des réquisitions militaires et aux travaux de construction de l'église qui étaient alors en cours. Et au total, ces dépenses extraordinaires représentent 2 000 livres. Autrement dit, et pour le synthétiser clairement, au début du XIVe siècle, on est arrivé dans une situation où les moines peuvent non seulement supporter d'importantes dépenses imprévues, on va y revenir, mais aussi investir pour optimiser leur patrimoine. Le cas de Saint-Ouen est à cet égard, n'est pas isolé, c'est une véritable stratégie qui est mise en place par les grands abbés bénédictins du XIIIe, XIVe siècle. L'abbé du Bec et Loing fait exactement la même chose et lui va se spécialiser dans la production de vin dans le Vexin notamment. L'abbé de Fécamp, également dans les rentes, l'achat de terres ou de droits nouveaux. Vous avez par exemple l'abbé Guillaume III Vastpaille à Fécamp qui achète pas moins de 131 terres différentes en une dizaine d'années dans la même paroisse pour étendre ainsi son influence dans une terre déterminée. C'est exactement les mêmes stratégies qu'à Saint-Ouen. Il faut bien mesurer que nos abbés, nos moines, sont des gens qui voyagent, qui discutent entre eux et qui parcourent la Normandie à plusieurs moments dans leur trajet, voire qui viennent d'autres abbayes, qui échangent, qui se croisent. À l'enterrement de l'abbé Jean-Marc d'Argent, presque tous les abbés bénédictins de la province viennent quelques jours, etc. Donc les stratégies, les bonnes recettes, ils le connaissent, ils les diffusent. Il n'y a aucun. Il ne faut pas concevoir les monastères médiévaux comme étant des mondes totalement fermés sur eux-mêmes où aucune information n'entrerait ni ne sortirait. Tous ces achats sont des investissements qui visent à augmenter les revenus de l'abbaye sur le long terme. Et la concentration spatiale favorise indéniablement la gestion, évidemment. Contrairement au siècle précédent, où l'acquisition de terres était généralement le résultat de donations, cela veut dire qu'on est à une époque où les abbés sont en position de faire des choix. Au 9e, 10e, 11e siècle, en gros, quand vous êtes un monastère, les aristocrates vous donnent des terres. Mais si vous dépendez de la donation, c'est l'aristocrate qui choisit la terre qu'il vous donne, et après, débrouillez-vous avec ça. Quand vous êtes dans la position de l'acheteur, vous pouvez définir votre propre stratégie et vous-même constituer un patrimoine qui vous semble cohérent, complémentaire, etc. L'archétype, encore une fois, très connu, c'est l'abbé de Fécamp qui achète à la fois les droits de pêche au Oran et les salines. Et comme ça, il fait saler son poisson, il revend, et comme ça, il a son bénéfice. Concentration horizontale et verticale, pour parler comme les économistes. Alors, synthétisons sur ce point. Au XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, donc, dans aucune abbaye normande, aucun cas de surendettement ne s'est avéré irréversible. Et c'est quand même assez rassurant pour nos abbés de Saint-Ouen. Quand vous voyez la situation dans laquelle ils sont, on est en droit d'avoir peur pour eux un instant. Mais l'institution est tellement forte et les stratégies peuvent être tellement pérennes que finalement, ils parviennent toujours à surmonter ce problème-là. Ça passe donc par des investissements et des dépenses, au point de se demander quand même s'il n'y a pas une tradition à Saint-Ouen de gestion par l'endettement. C'est vraiment une abbaye où on s'endette sur le très long terme en permanence pour entretenir un petit peu son train de vie, son niveau de vie. Deuxième point, il faut bien garder que le cas de Nicolas II, dont je vous parlais tout à l'heure, est un cas exceptionnel. La lecture du registre de Drigo, que certains d'entre vous connaissent peut-être, parce qu'il y a des passages très croustillants avec des abbés qui boivent beaucoup, qui vont voir des dames de petite vertu, des convois de moines qui vont dans les monastères féminins, etc. Mais en général, on n'a retenu que ces passages-là du registre de Drigo. Et si on est juste avec nos moines du XIIIe siècle, ben ils sont très rares, ces cas. Et en fait, dans le registre de Drigo, ce qui domine, c'est les cas de bonne gestion. même si l'archevêque était un éternel insatisfait et qu'il adresse toujours un petit reproche. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas quand Rodrigo débarque. Au total, l'archevêque note quand même régulièrement que Lebec, Saint-Georges de Beaucherville, Sainte-Catherine de Rouen, ou encore Saint-Ouen de Rouen, bien évidemment, sont parfois bien gérés. Alors, Jean-Marc d'Argent, grâce à l'action de ses prédécesseurs et à ses propres choix, semble donc avoir eu à sa disposition, sans pierre philosophale, les moyens de bâtir une nouvelle abbatiale. Reste à expliquer son désir d'investissement. Premier point, donc j'ai évoqué tout à l'heure l'incendie de 1248. Celui-ci, vu la situation de l'abbaye, a probablement été réparé que... On a fait service minimum, si vous voulez, par rapport à la situation précédente. On n'en a pas profité pour réélever un nouvel édifice avec des dimensions plus grandes ou quoi que ce soit. On a paré au plus urgent. Jean-Marc d'Argent est probablement le premier abbé à pouvoir envisager un peu sereinement de se lancer dans un chantier d'une telle ampleur. Les autres ont dû faire face à une situation interne compliquée de l'abbaye, à la crise économique, et on peut même se demander finalement si tous les efforts déployés par Jean-Marc d'Argent, qui est un abbatiat assez long hein, quand même, vous l'avez remarqué, 1303, 1339, 36 ans. On peut se demander si tous les efforts déployés par Jean-Marc d'Argent, donc au début de son abbatiat, en matière de gestion du temporel, n'étaient pas tournés vers cet objectif, redonner enfin à ses moines l'Église qu'ils méritent. Cette préoccupation est d'autant plus probable que presque toutes les sources médiévales ont pour point commun de souligner les actions des abbés en matière de construction. Un bon abbé du XIIIe, XIVe siècle est un abbé bâtisseur. Il doit construire, et c'est une dimension de son pouvoir qui est largement valorisée, bien plus dans beaucoup de monastères que la capacité à lire, à faire des études intellectuelles ou quoi que ce soit. C'est presque secondaire dans certaines abbayes, à part peut-être au Bec. C'est par exemple une des rares informations que donnent les annales de Saint-Vendry sur les actions de ces abbés au cours du Moyen-Âge. C'est largement mis en valeur à Fécamp, c'est largement mis en valeur à Saint-Ouen. On retrouve les mêmes choses dans certaines abbayes bas-normandes comme à Caen. Alors, plusieurs facteurs dans ce contexte peuvent conduire les abbés à lancer des travaux dans leur monastère. Alors que les effectifs étaient plutôt stables au XIIIe siècle, voire diminuaient. N'oubliez pas qu'on est dans une période où quand même l'ordre bénédictin stasse un petit peu, même s'il ne meurt pas, et où le recrutement devient plus compliqué. Lebec, Saint-Ouen et Saint-Vendry n'ont plus de moines nouveaux tant que ça à partir du XIIIe siècle. Alors comment expliquer les travaux? La plupart du temps, c'est suite à des incendies. Saint-Ouen brûle en 1201 et en 1248, Saint-Vendry en 1247, Lebec en 1263 et en 1273. Tous ces incendies sont en général des reconstructions forcées pour lesquelles les moines sont en général pris de court et doivent recourir à une aide extérieure. Par exemple, pour Lebec, 1263, on va recourir à Saint-Louis et au pape pour obtenir de l'argent et du bois pour reconstruire l'abbaye. Ce n'était pas le cas de Saint-Ouen. Le cas de Saint-Ouen est un cas calculé où les travaux semblent liés à une volonté d'amélioration de la part d'un abbé avec l'accord certainement de ses moines. Jean Ier défend, et à Saint-Ouen, donc plusieurs abbés, se sont illustrés en matière de construction. Jean Ier de Fontaine, donc abbé de 1273 à 1287, et Jean d'Auteuil, abbé de 1290 à 1303, ont fait construire, reconstruire ou améliorer un nombre très impressionnant de manoirs, de fermes et d'étables de l'abbaye. Ces travaux sont accompagnés d'achats de terres et visent, encore une fois, à améliorer la gestion domaniale, etc. Jean-Marc d'Argent s'est lui-même essayé à cet exercice quand il était prieur de Beaumont-en-Auge. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'avant de devenir abbé, il s'était fait les dents dans un prieuré. Eh bien, il a fait reconstruire l'infirmerie, il a fait reconstruire des morceaux de ce prieuré et il a montré sa capacité ainsi à tirer bénéfice d'une reconstruction et de mener un chantier à bien. Car même s'il y a un maître d'œuvre en général pour les aspects techniques, c'est bien le prieur ou l'abbé qui est responsable du chantier quand vous construisez, bien sûr. Cela permet à Jean-Marc d'Argent d'entreprendre donc à partir de 1319 des travaux qui semblent relever d'un véritable projet artistique nouveau. Il s'agissait cette fois de construire une nouvelle église dont les dimensions impressionnantes, plus de 130 mètres de long et une hauteur de 33 mètres sous voûte, correspondent aux nouveaux modèles architecturaux gothiques. Et au point que dans les sources médiévales, donc les sources narratives, les sources à la fois produites à Saint-Ouen et produites ailleurs, Jean-Marc d'Argent, sa personnalité va être associée à cette construction. C'est le cas dans la chronique de l'abbaye, c'est aussi le cas, vous disais-je, dans d'autres textes. Ainsi, les annales de Saint-Vendry indiquent à l'année 1339 que est mort Jean-Marc d'Argent, abbé de Saint-Ouen de Rouen, qui a fait réédifier son église, Noé opéré, en œuvre nouvelle, entendons, en art gothique. Donc c'est vraiment associé à sa personnalité de façon plus globale. Alors, Jean-Marc d'Argent bénéficiait, en fait, est associé, hein, si vous amusez, allez voir la page Wikipédia de Jean-Marc d'Argent, hein, ce que j'ai fait avant de revenir pour voir un peu ce qui se disait. Eh bien, tout ce qu'on va lui dire, c'est qu'il a reconstruit Saint-Ouen. Et en fait, on oublie souvent de dire qu'il a bénéficié d'un demi-siècle d'action des abbés de Saint-Ouen qui ont restauré une situation à cette abbaye, d'une tradition à Saint-Ouen qui a permis de connaître des techniques de construction, de valoriser cette figure de l'abbé bâtisseur. Et il a eu la chance d'avoir un abbatiat plutôt long qui lui a permis de mener à bien un projet comme celui-ci. Et bien sûr, notons rien à sa personnalité quand même. Hein, il semble avoir été un homme particulièrement actif et avoir œuvré lui-même hein, pour cette reconstruction et ce goût nouveau. Alors, question subsidiaire, a-t-il partiellement flambé ? A-t-il dépensé trop ? Peut-être, peut-être. Son successeur, donc Renaud II du Quesnay, trouve une abbaye quand il arrive avec des dettes considérables. Il a beaucoup de mal à remettre les choses à flot, et le pauvre Renaud du Quesnay donc, va arriver avec ce chantier en cours, des dépenses engagées, et on est au milieu du XIVe siècle, les papes ont un appétit de plus en plus grand pour gagner de l'argent, pour le dire simplement, et l'entourage du pape, notamment, va œuvrer à faire des élections abbatiales à un moment où on va récupérer de l'argent auprès des abbayes. Alors je vous ai mis là un élément intéressant. C'est contenu dans la chronique de Saint-Ouen, quand je vous disais que c'était une chronique qui s'intéressait beaucoup aux données chiffrées, tous ces chiffres-là sont dans la chronique. Hein. Ce n'est pas le genre de choses qu'on a d'habitude de voir dans une chronique médiévale. Et on a un moine là qui nous fait le détail des dépenses de Saint-Ouen au moment de la transition entre Jean-Marc d'Argent et son successeur. Alors, vous voyez, je vais essayer de... Donc vous voyez que les obsèques de notre ami Jean, 2,6%, et c'est des obsèques particulièrement somptueuses, j'y reviendrai un peu après, non, j'aurai peut-être pas le temps, des obsèques particulièrement somptueuses. Or, le coût, je vais hurler là, j'ai l'impression, les coûts de l'élection sont explosés par le pape dans ces cas-là. Vous avez ce qu'on appelle les annates ou communs services qui correspondent normalement à une année de revenus du bénéfice que doit verser un abbé au moment de son élection, qui représentent plus de la moitié des coûts occasionnés par l'élection. 8 000 livres. Souvenez-vous hein, des montants de tout à l'heure, on est dans le même ordre de grandeur. Une année de revenus de Saint-Ouen, c'est 11 000 livres et le pape déduit une partie des éléments, c'est-à-dire l'endettement, l'entretien du bénéficiaire ou des choses comme ça. Mais vous voyez que les communs services, c'est 50%. Là, c'est la moitié de mon camembert, la moitié bleu clair. Dans le cas de l'élection de Renaud du Quesnay, cette taxe, donc, elle est payée et elle est encore amplifiée par des surcoûts. C'est la catégorie bleue plus foncée qui est déplacement et dépenses à Avignon. Hein, oui, le pape est installé en Avignon à cette époque, j'aurais dû vous le préciser plus tôt. Ces dépenses-là occasionnent plus du tiers des dépenses totales de l'élection et une grande partie sont liées au voyage. Donc 1800 livres pour aller présenter l'élection du nouvel abbé en Avignon et pour aller voir le pape. Et bien sûr, pour voir le pape, il faut passer par les cardinaux. Les cardinaux exigent des cadeaux, nous dit la chronique, et à leur entourage. Et le chroniqueur, de façon très intéressante, note le détail de quelques-uns des cadeaux. 5 cardinaux reçurent des draps d'escarlate, l'escuyer de Pierre Roger, une robe, et le reste est simplement appelé don, donc probablement des dons en numéraire remis à l'entourage du pape pour obtenir finalement donc l'autorisation d'avoir Renaud du Quesnay comme abbé. Dans son ensemble, l'élection simplement de Renaud Duquesnay représente 135% des revenus annuels de l'abbaye. Donc vous mesurez qu'il faut une assise financière solide, y compris dans ces cas-là quand même pour que l'abbé dure. Parce que si on change d'abbé tous les deux ans et qu'on recommence tous les deux ans, c'est le même processus qui se met en place, donc un abbatiat de 33 ans, c'est pas mal quand même, hein. Ça permet d'absorber un petit peu tout cela. Mais l'abbatiat de Renaud Duquesnay, je vais pas en parler là, d'autant plus que c'est l'abbatiat qui est marqué par le début de la guerre de Cent Ans. Alors je voudrais terminer par en tuant notre ami Jean Marc d'Argent quand même, dont les funérailles sont racontées de façon assez précise. Et bon, c'est comme c'est un récit rare, je vous le donne en 4-5 minutes. Donc il est malade depuis plusieurs mois dans les années 1339. Il est dans le manoir de Biorel, qui est un des grands manoirs des abbés de Saint-Ouen. Et la chronique de l'abbaye s'atteint très longtemps hein, sur ses funérailles, et au point que ses funérailles vont être recopiées dans le coutumier de l'abbaye. En quelque sorte, elles vont devenir le modèle de des funérailles de l'abbé de Saint-Ouen pour la suite, et tellement elles ont dû impressionner et être importantes. Donc, classiquement, l'abbé meurt en présence de plusieurs moines de l'abbaye, et il est décidé que les obsèques auront lieu le samedi suivant la mort. On est début décembre 1339. On invite tout de suite d'autres abbés. Je vous le disais tout à l'heure, ça circule, ça se connaît. Hein, les abbés de Fécamp, du Bec, de Jumièges, de Saint-Vendry, de Saint-Victor-en-Gaulle, de Sainte-Catherine et de l'Île-Dieu débarquent. Des seigneurs, Pierre, seigneur de Préau, Guillaume Mallet, seigneur de Vasqueuil. Donc c'est les laïcs qui sont proches de l'abbaye. Le corps est préparé par un chirurgien de Rouen qui s'appelle Jean de Fontenay et il est exposé au manoir de Biorel, dit la chronique, vêtu comme pontifical, c'est-à-dire vêtu notamment de la mitre dont je vous parlais tout à l'heure, une crosse, l'anneau pontifical, etc., et les sandales aux pieds. L'ensemble du corps repose sur deux draps d'or brodés de noir. La tête est posée sur un grand oreiller également doré. Le jeudi 9 décembre, tout commence. L'ensemble du couvent, mené par le prieur, donc se rend au manoir de Biorel et se rassemble devant le chœur. Commence notamment le De Profundis. Je vous passe un petit peu sur les éléments. Et tous ces moines vont prendre donc notre abbé et l'emmener jusqu'à Rouen. Au fil du trajet, toutes les religions de la cité de Rouen, c'est-à-dire les clercs séculiers, les ordres mendiants, les autres moines, etc., viennent voir le corps, le saluer jusqu'à ce qu'il soit placé dans le cœur de Saint-Ouen devant le maître-autel. Une chapelle ardente est mise, qui ne s'éteindra pas avant l'enterrement proprement parlé. Le chantre de la cathédrale de Rouen vient. Il y a probablement un petit conflit quand même hein, avec les séculiers, puisque vous savez que l'archevêque et l'abbé étaient en conflit. Ensuite se met en place la cérémonie, puis, je passe un petit peu, c'est l'abbé de Jumièges qui, le jour J, va célébrer la messe des morts en l'honneur de Jean. Les abbés de Sainte-Catherine, du Bec, de Saint-Jouard, de l'Île-Dieu vont faire le chœur, crosse à la main, accompagnés des moines de Saint-Ouen, des frères prêcheurs, des frères mineurs de Rouen. Les Augustins et les Carmes jouent notamment un rôle très important. En plus de tout ce monde-là, vous avez les prieurs de la Madeleine de Rouen, de Notre-Dame-du-Pré, de Gramont, de Saint-Lô, de Bonlieu, du Mont-Malade et d'autres lieux, les chevaliers Pierre de Préau, Pierre de Bailleul, Sauvage d'Antony, Jean du Vivier, les chanoines de Rouen, les échevins de Rouen, les bourgeois de la ville, des clercs et des laïcs d'autres lieux, etc. Tout ce monde-là ne rentre pas dans l'église, nous raconte la chronique, et vous êtes face à une cérémonie qui a impressionné visiblement les gens de son temps, qui nous donne quand même une idée de l'importance qu'a pu acquérir cet abbé de Saint-Ouen à cette époque-là. Et il n'est pas impossible que c'est aussi pour impressionner, évidemment, hein, que les moines de Saint-Ouen convoquent tout ce monde-là, et que c'est le genre de cérémonie où il fait bien être vu pour certains. Le corps de Jean est alors dépouillé de bons vêtements pontificaux et de l'atout pontifical, c'est-à-dire donc de cette mitre, etc. Et on lui met d'autres vêtements avec lesquels il sera enterré. C'est-à-dire qu'on a la série qui sert officiellement pour les abbés en poste, donc probablement la plus richement décorée, etc. On lui met des choses tout à fait nécessaires et convenables, hein, ce sont les mots de la chronique, mais on l'enterre quand même pas avec les choses qui valent le plus cher. Dans un cercueil en bois, puis dans un coffre en plomb, son cœur est enterré et une épitaphe est fixée sur celui-ci. Qui dit, alors c'est en latin, Hic jacet frater Johannes Marc d'Argent, alias Roussel, condam abbas, donc jadis abbé de ce monastère, qui incipit edificare istam ecclesias, qui a commencé à édifier cette église, de novo, donc à nouveau, et fecit corum et capellas, et il a fait le chœur et les chapelles, etc., etc. Il est ensuite enterré dans la chapelle de la Vierge par l'abbé de Jumièges, et le couvent de Saint-Ouen organise ensuite un grand dîner au réfectoire où, avec tous les abbés invités notamment, fréquente cette abbaye. Dernière étape, Jean-Marc d'Argent voit son nom inscrit à l'obituaire de Saint-Ouen au 9 décembre. Et donc à partir de là, tous les 9 décembre, hein, une messe en son honneur sera dite. La mort de l'abbé signifie que c'est le début de l'élection de l'abbé suivant et que le processus se met en place pour élire Renaud Duquesnay. Ça commence très vite. Hein. 2 jours après, il faut qu'on nomme un nouvel abbé. Toute la procédure se met en route. En gros, les moines se réunissent, vont émettre ce qu'on appelle la liberté d'élire, la licentia eligandi, au roi de France, et vont lancer la procédure et demander des conseillers, etc. C'est une procédure très longue, hein, vous voyez, avec le cas de Renaud Duquesnay. Mais cela, c'est une autre histoire, marquée notamment par les débuts de la guerre de Cent Ans, qui a eu aussi son importance à Saint-Ouen. Mais pour ce soir, nous resterons avec Jean-Marc d'Argent. Merci beaucoup pour votre attention.